Chapitre 3. Premier matin, soleil rubis. Premier astre, tout de rose vais. Première nuit, pierre blanche. Première lune, tout d'argent pâle. Second matin, soleil saphir. Second astre, tout de bleu teint. Seconde nuit, main blême. Seconde lune, tout de mort vient. Syracusa, ô Syracusa, je pleure sur ta beauté. Syracusa, ô Syracusa, moi l'exilé. Poème syracusain, période Napheline. Le second soleil, soleil saphir, désertait la voûte céleste dans un éclaboussement de couleurs bleues et mauves. Les bulles lumière s'embrasèrent et s'envolèrent comme une gerbe de brandon au-dessus des larges avenues et des étroites ruelles de Vénitia, la cité seigneuriale. « Regardez, mon oncle !» s'écria Listwirtling, le jeune seigneur de Martina. Le régent Striwirtling hocha la tête et se contenta de sourire. Certaines petites sphères enluminées et flottantes achevèrent leur course vagabonde dans les frondaisons des spuniers. Elles emplirent de lumière blanche les feuilles et fruits translucides des grands arbres, qui se transformèrent en de gigantesques festons d'or soufflés par la brise nocturne. « C'est magnifique !» s'extasia Liszt penché sur le garde-corps ciselé du balcon. Goûtant l'exquise fraîcheur du second crépuscule, le crépuscule majeur, les Syracusains se répandaient dans les artères rectilignes de Vénitia. Elles convergeaient pour la plupart vers la place centrale, immense esplanade circulaire au centre de laquelle se dressait une fontaine d'optallium rose. Des jets d'eau irisés fusaient des gueules entrouvertes d'animaux du bestiaire symbolique kreutzien. Dragons, griffards, diables de Koromo, serpentaires noirs. Autour du bassin ovale se donnaient toutes sortes de spectacles ambulants, mimes tridimensionnels, chants de béatitude, danses de l'âge médian, jonglage téléport ou combat de son. L'asthma quinquennal avait attiré de nombreux artistes des mondes du centre. Ils rivalisaient d'adresse, de cris, de mimiques pour retenir les badauds, lesquels ne se départissaient que très exceptionnellement de leur indifférence hautaine et blasée. Du haut du balcon, Listwirtling et le régent de Martina ne se lassaient pas d'admirer le spectacle grandiose de la capitale syracusaine, s'éveillant à la seconde nuit. Édifié au sommet d'une colline recouverte d'herbes lilas et parsemée d'allées scintillantes, le majestueux palais Ferkti Hang dominait le quartier de Romantiga, le cœur historique de l'agglomération, traversé de part en part par un méandre du fleuve Tibère Augustus. Chaque pont de turco-marbre, enjambant ce large et paresseux cours d'eau, était une petite merveille d'élégance et d'équilibre. Sous les arches ciselées, les galiotes à voile d'air chaud et à fond marin d'observation déroulaient leurs pontons mobiles et vomissaient leurs cargaisons bruyantes et mouvantes de touristes extasiés. « On les reconnaît immédiatement, ceux qui ne sont pas nés ici, » soupira Listwirtling. « Vous êtes encore bien naïf, List, » déclara le régent de Martina, intérieurement ravi de la réaction de dépit de son neveu. « Qu'espériez-vous en venant ici ?»« Pour les Syracusains, nous, » il insista lourdement sur ce « nous, » sommes des paritoles, et je vous prie de croire que ce qualificatif est péjoratif dans leur précieuse bouche. C'est un tort que de vouloir imiter ce qui est inimitable. Vous êtes Martinatin, par essence différent de ces gens-là. Autant chercher à développer vos propres qualités, vos propres valeurs, ne croyez-vous pas? N'importe quel mi-homme mi-bête du guetta blanc aurait envie d'imiter les Syracusains, rétorqua Liszt agacé par les insinuations de son oncle. Chez eux, tout est grâce, harmonie, élégance. Ils consacrent leur vie à la recherche esthétique. Ils ont fait du beau un véritable culte. » Stry Wortling se recula et examina le seigneur List, adolescent de 16 ans qui buvait la ville des yeux. Comme la plupart des filles et garçons de son âge, il s'était laissé gagner par la contagion syracusaine, une maladie endémique qui se propageait rapidement sur les planètes majeures de la Confédération de Naflin. Sous ses vêtements traditionnels de Markina, longues cottes de laine de mutule noire brodées d'octalium blanc et d'or, ample sous la houelle jaune resserrée aux chevilles par des diamants annelés, il portait un collant-cor pourpre souligné d'un liseré gris. Cet accessoire superflu et incommode horripilait le régent, surtout le cache-tête qui emprisonnait la chevelure bouclée de List et lui donnait l'air d'une statue de cire ou d'une momie. Autant le collant-cor semblait relativement naturel et gracieux sur un syracusain, autant il était parfaitement déplacé et ridicule sur un paritole. Mais Stry Wortling savait qu'il était inutile de chercher à convaincre son neveu. La cour de Markina s'était entichée de culture syracusaine et l'instigatrice de cette mode n'était autre que la propre mère de List, Dame Armina. Un court passage sur Syracusa serait plus probant que n'importe quel discours. D'ailleurs, le futur seigneur de Markina commençait à sonder la profondeur du gouffre qui le séparait de ses hôtes et modèles. Cette sournoise lutte d'influence entre le régent et sa belle-sœur relevait de l'anecdote. D'autres pensées, plus importantes, accaparaient l'esprit de Stry Wortling. Un mois standard plus tôt, il avait reçu un messacode urgent sur son tabernacle personnel. La congrégation des Smella lui annonçait qu'un terrible incendie avait ravagé le palais des assemblées d'Issigor. En conséquence, et par mesure de sécurité, la congrégation bouleversait le programme établi depuis 200 ans et déplaçait l'asthme quinquennal sur Syracusa, la reine des arts, le seul état membre qui eût déposé une candidature de substitution dans les temps. Le régent en avait éprouvé un certain soulagement, au début. Ses vieux os n'auraient pas à subir la redoutable épreuve du climat d'Issigor, réputé pour ses brumes enneigées, ses pluies de glace et ses tornades de blizzard. Si ce changement de dernière minute s'avérait navrant pour le clan de Mo Calkin, le seigneur d'Issigor, il constituait plutôt une bonne surprise pour les autres dirigeants de la Confédération. Le malheur des uns... Et puis, au fur et à mesure que le temps s'était écoulé, un sombre pressentiment avait envahi Stry Wortling, dont l'esprit était perpétuellement enclin à la méfiance. Ni la précipitation, ni l'autoritarisme n'étaient dans les habitudes des Smella, ces gardiens zélés et clairvoyants de l'équilibre des pouvoirs. Or, dans cette affaire, les seigneurs des États membres n'avaient pas eu la possibilité d'user de leur droit de veto. Ils avaient été mis devant le fait accompli. Le régent de Markina redoutait la féroce ambition des Hang de Syracusa et de leurs séides, les Skaïtes d'Hipponeros. Il s'en était ouvert à ses conseillers, avait épluché sans trêve les rapports de ses ambassadeurs officiels et de ses agents officieux à Vénitia, la capitale syracusaine. Il avait personnellement consulté deux Smella de ses relations, ainsi que les seigneurs de Camalot et de Great Britain, les deux planètes les plus proches de Markina. Ces démarches n'avaient débouché sur aucun élément réellement concret. Les rapports faisaient état de l'influence grandissante des Skaïtes d'Hipponeros, malgré la guerre larvée que leur livraient les courtisans sectateurs de la tradition, et des contacts fréquents de Menati Hang, commandant en chef intérimaire de l'interlice confédérale, avec les mercenaires de Prithive. Rien en tout cas qui pût étayer la thèse d'une machination. Il était de notoriété publique que bien des personnalités des différents mondes utilisaient les services des assassins professionnels de Prithive pour l'accomplissement de basses besognes. Une exclamation tira le régent de ses pensées. « Regardez, mon oncle, l'étrange équipage !» List désignait une allée de la colline assombrie où déambulait un syracusain, revêtu d'une fastueuse sourat bleu nuit, ornée de motifs spiraux brillants et changeants. Et deux autres personnages enfouis dans de longues robes blanches, surmontés d'amples capuchons. De loin, ils donnaient l'impression d'exécuter un ballet silencieux parfaitement réglé. « Si vous voulez vraiment avoir l'air d'un autochtone, mon neveu, sachez donc qu'il est de fort mauvais goût de parler haut, de s'extasier niaisement sur un spectacle affligeant de banalité et de montrer du doigt », ironisa Strywortling. « En revanche, il est acceptable d'atteindre la maîtrise des émotions. Dans ma grande candeur, je croyais que Jalal de Rawalpindi, votre maître d'éducation, vous avez soigneusement inculqué ces élémentaires principes de base. Votre chère mère s'est pourtant acquittée d'une somme astronomique pour le faire venir d'ici. Je ne sais si elle apprécierait le résultat. » Le visage encore enfantin de Liszt se couvrit de confusion. Furieux contre lui-même, le jeune seigneur de Marquina se mordilla les lèvres comme pour s'interdire de répliquer. Les deux mystérieux individus qui suivent pas à pas ce dignitaire syracusain sont des scaïtes d'Hyponéros, reprit le régent, estimant que la leçon avait porté ses fruits. Et leurs robes blanches s'appellent des Akabas, une race mystérieuse douée de pouvoirs télépathiques étonnants. Personne ne sait quelle est l'origine exacte des scaïtes. Certains disent qu'ils viennent de l'univers inconnu. D'autres soutiennent que ce sont des créatures des forces noires, du diable si vous préférez. Ils remplissent diverses fonctions administratives. L'un d'eux, du nom de Pamings, a même été nommé grand connétable par Argeti Hang, le père de l'actuel seigneur de Syracusa. Une charge très importante, équivalente à celle de notre Daït général. Ces deux-là ne sont apparemment que de simples protecteurs de pensée. Bien que fermement résolu à s'emmurer dans un silence boudeur, Liszt ne put s'empêcher de poser la question qui lui brûlait les lèvres. « Un protecteur de pensée ? Cet escroc de Jaal de Rawalpindi ne vous a donc rien appris ?» soupira le régent. « Tout précieux et arrogant qu'il soit, les courtisans syracusains sont obligés de faire protéger en permanence leurs pensées intimes. » Les scaïtes protecteurs dressent une sorte de barrage mental, destiné à prévenir l'action des lecteurs.
Lecteurs ?
D'autres scaïtes, des mercenaires, également surnommés les inquisiteurs. On les paie fort cher pour puiser des renseignements confidentiels à leurs sources, c'est-à-dire directement dans les esprits. Ces gens-là me font un peu peur, je vous l'avoue. Ils ont réussi ce tour de force de se rendre indispensables à la fois comme pilleurs et gardiens de cerveau.
« Peur, vous, mon oncle ?»
Liszt libéra un rire espiègle. Du haut de ses 16 ans, il lui paraissait inconcevable que le régent de Marquina, frère cadet de son père décédé, pût éprouver un sentiment de peur. « Pas au sens où vous l'entendez, Liszt. Ce sont des intrigants. » Nous devons veiller à ce qu'ils n'emploient pas leurs facultés télépathiques à rompre l'équilibre des pouvoirs, clé de voûte du système de Naflin. Les scaïtes occupent une place trop importante dans les affaires syracusaines, et Syracusa, si j'en juge l'influence qu'elle exerce sur vous, une place trop importante au sein de la Confédération. Imaginez un peu que les inquisiteurs s'avisent de lire en vous, en moi, en chaque dirigeant, aussi clairement que dans un vieux livre Lumière. » En prononçant ces paroles, le régent se rendit soudain compte qu'il avait négligé cette dernière éventualité. Il ne s'était pas demandé si les scaïtes, inquisiteurs ou protecteurs, se conformaient au rigoureux code d'honneur imposé par la congrégation des Smella et limitaient réellement leur champ d'activité à la planète Syracusa et à ses satellites coloniaux. La stricte observance de la règle confédérale lui était toujours apparue comme une évidence, mais subitement, sur ce haut balcon cerné par les ténèbres naissantes, il eut l'impression que d'invisibles tentacules furetaient à l'intérieur de son crâne. Il lui tardait de mettre son projet à exécution. Il espérait, au cours de la nuit, trouver des réponses aux questions qui le tourmentaient au point d'en perdre le sommeil. Pour cela, il lui fallait coûte que coûte obtenir une entrevue privée avec son vieil ami, le syracusain Sri Alexou. Il devait à présent réfléchir aux moyens d'échapper à la sévère surveillance déployée autour du palais Ferkti Hang, composés d'interliciers confédéraux, sanglés dans leurs combinaisons noires, de gardes en uniforme d'apparat et d'agents de la sécurité intérieure syracusaine.
« Et celui-ci ? »
s'exclama List, de nouveau embrasé par le feu dévorant de la curiosité.
« Est-ce que vous savez ce qu'il représente ?»«
Ce surplis pourpre sur ce col en corps safran, c'est l'habit sacerdotal des missionnaires de l'église du Kreutz. »«
Ah oui, c'est vrai que c'est la religion ici, »
marmonna l'adolescent, déçu par la médiocrité de l'information.
« Je vois que vous vous souvenez de quelques-unes de vos leçons. » Le creutzianisme est en effet la religion officielle de Syracusa.
Vous ne semblez pas lui accorder une grande estime,
remarqua List, à qui la moue méprisante de son oncle n'avait pas échappé.
En l'occurrence, le terme officiel est impropre. Il serait plus exact de dire obligatoire. Et je pense que chaque être, quel qu'il soit, a droit au libre choix de ses croyances. Mais venez à présent, allons nous promener dans le parc. Il serait dommage de ne pas profiter de cette pure merveille.
Toujours penché sur la balustrade, immergé corps et âme dans sa contemplation, List ne bougea pas. Le régent rentra à l'intérieur de la luxueuse suite suspendue, s'assit devant la table de bois parfumée qui lui servait de bureau, et appuya la paume sur une petite boîte noire, qu'une lueur bleue auréola furtivement. Un transmetteur cellulaire, relié aux récepteurs oculaires de ses daïts. List quitta à contre-cœur son poste d'observation et pénétra à son tour dans le salon principal. Il s'immobilisa à trois pas de la table et laissa errer son regard sur la nuque, les épaules et le dos de son oncle. Strywertling était un homme vieillissant, qui tenait auprès de lui le rôle de père depuis le décès d'Abaski Wortling, 127e seigneur de la dynastie de Wartmaort. List n'étant pas encore en âge de régner, Stry, frère cadet d'Abaski, avait été chargé par le conseil d'assumer la transition et de préparer la succession ainsi que le voulait la loi Markinatine. Le nouveau régent s'était immédiatement attelé à sa tâche. Rusé, retors même, il avait fait preuve d'habileté et de clairvoyance pour régler à son avantage les contentieux territoriaux ou commerciaux qui avaient opposé Markina aux autres États membres. Il jouissait désormais de l'estime générale, et nombreux étaient les seigneurs en titre qui n'hésitaient pas à recourir à ses conseils. List fut à la fois contrit et amusé de constater à quel point les vêtements de son oncle étaient passés de mode. Quel contraste avec les chatoyantes étoffes aperçues en contrebas. Il bouillait d'impatience, tant bien que mal contenu, de faire son entrée à la cour du seigneur Ranti Hang. Il mourait d'envie d'admirer de ses propres yeux les fastes maintes fois décrits par les rarissimes notables de Markina qui avaient bénéficié une fois dans leur vie de ce privilège. C'était non seulement l'introduction dans le Saint des Saints, dans le temple même de l'élégance et de la grâce, mais également l'assurance d'un retour triomphal auprès de ses amis. Mais plus le temps passait, plus ce moment semblait s'éloigner. Il lui faudrait encore ronger son frein jusqu'à la clôture officielle de l'asthme quinquennal, attendre la fin des interminables palabres sur des sujets aussi obscurs et assommants que la parité monétaire, les rééquilibrages commerciaux, l'éthique scientifique et médicale, le statut des non-humains, bref, tout ce qui composait le menu ordinaire des asthmas. Malgré l'affection sincère et respectueuse qu'il éprouvait pour son oncle, List tenait Strywertling pour le reliquat poussiéreux d'un passé laborieux et révolu, un peu comme les gelées des contes markinatins, qui, lorsqu'ils sortaient de leur long sommeil dans les tombes d'azote, se retrouvaient en décalage avec leur époque. Le régent était devenu l'un des dirigeants les plus influents de la Confédération de Naflin. Mais sa longue cotte de laine brune et terne, ses cheveux gris et désordonnés tombant en cascade sur ses épaules et son dos voûté, son soulaouel de coton écru, ses hautes bottes de cuir fauve usées, ne traduisaient guère son rang. Si le ciel permettait que lui, List Wortling, fils unique d'Abaski Wortling, devint seigneur des mondes du Wartmaort, il saurait imposer à sa cour une étiquette raffinée, basée sur l'art et la beauté.
Les invisibles ascenseurs R déposèrent la délégation de Markina, encadrée d'une imposante escorte, sur une petite place circulaire d'où partaient, comme les pointes étirées d'une étoile, les allées rectilignes des gemmes blanches et brillantes. Les contours du parc s'évanouissaient dans les replis de la seconde nuit, la nuit des plaisirs et du repos.
« Qu'il fait bon se promener ici, monseigneur !» déclara Jasper Arnett, le Dyde général. « Quel dommage de ne pas bénéficier de ce climat sur Markina !»«
Notre monde offre d'autres attraits, » répondit Strywhirtling. « Un peu plus rude, je vous l'accorde, mais nous avons 6 saisons. Chacune se fait désirer, chacune a ses propres charmes. »
List marchait à l'écart, dans l'intervalle qui séparait le groupe des Daïtes et des ambassadeurs entourant le régent de l'escouade, des gardes confédéraux fermant la marche. Il abhorrait la compagnie mortellement ennuyeuse du Dyde général, un petit homme chauve toujours vêtu d'une cotte grise. Colporté par le vent Coriolis, une douce brise surnommée « la caresse d'amour » et de subtiles essences embaumait l'air tiède. Les étoiles lointaines criblaient le voile bleu sombre du ciel. 3 des 5 satellites nocturnes décochaient leurs premières flèches rouges orangées à l'horizon. Une nuée de bulles lumière flottait au-dessus du parc. Leurs faisceaux mouvants léchaient les gemmes scintillantes des allées, les massifs diaprés des éphémères crépusculaires et les ramures des saules amarantes. Au croisement de 4 allées, la délégation markitaine rencontra un autre groupe au milieu duquel Strywhirtling reconnut immédiatement la haute et caractéristique silhouette de Don Asmusa, seigneur de Sbarrao et des 11 anneaux. Les 2 escortes et les gardes se rangèrent sur les bords des allées. Le seigneur de Sbarrao et le régent de Markina, seuls et face à face, joignirent les mains à hauteur des yeux et s'inclinèrent à 3 reprises, comme l'exigeait le protocole. D'énormes corindons à facettes, rubis, émeraudes, saphirs, chatoyaient dans l'ample cape noire de Don Sasmusa. Une couronne de vieil or vert, aussi finement ciselée que du quartz dentelle, ceignait son large front. 2 tresses séparaient sa chevelure brune et huilée à la mode sbaraïque. List pensa subrepticement qu'il avait devant les yeux l'exemple même du mauvais goût.
« Régent Strywhirtling de Markina, c'est toujours un bonheur et un plaisir de vous rencontrer !»
déclara Don Sasmusa, dont la voix puissante lacéra le silence feutré du parc.
« Si mes souvenirs sont exacts, notre dernière entrevue remonte à l'asthme de Dalomip, il y a de cela 5 années standard. Le ciel l'avait tellement pleuré de larmes que nous nous étions tous hâtés de regagner nos mondes respectifs. »
Des rires entendus retentirent dans les rangs de la délégation sbaraïque.
« En effet, seigneur Asmusa, ni vous ni moi ne sommes faits pour endurer les climats froids et humides, n'est-ce pas ?» dit Strywhirtling. « Mais laissons de côté les souvenirs. Je suis fort aise de pouvoir m'entretenir un peu avec vous avant l'ouverture officielle de l'asthme. Certaines coïncidences me sont une grande source de préoccupation et j'aimerais vous en faire part. »
Le régent savait que Don Sasmusa était un homme d'État beaucoup plus avisé que ne l'indiquait son apparence clinquante, voyante, vulgaire, propre aux natifs des anneaux. Il était parvenu à consolider sa dynastie, une dynastie fondée à l'issue de la grande conspiration des anneaux, sans contrevenir aux lois de la Confédération de Naflin. Les anciens serfs du premier anneau, ces mêmes serfs qui avaient porté son aïeul sur le trône de Sbarrao, avait tenté de le renverser à 7 reprises. Il avait échappé à de multiples attentats, dont le dernier, une bombe à propagation lumineuse, lui avait arraché un bras. Son autorité était sortie renforcée de toutes ces épreuves. Les uns après les autres, les anneaux rebelles avaient déposé les armes et demandé leur réintégration dans la zone stellaire de Sbarrao. Les gardes se déployèrent en large cercle autour des 2 hommes. Strywhirtling jeta un rapide coup d'œil autour de lui et se demanda si certains des membres des escortes Sbaraïk ou Markinatine n'étaient pas munis de pavillons amplificateurs ou de traducteurs simultanés des mouvements des lèvres.
« Si cela ne vous dérange pas, nous utiliserons les codes de langage dirigeant, » fit Strywhirtling à voix basse.
« Avez-vous des soupçons sur vos proches ?» demanda Don Asmussa.
« On ne sait jamais, » répondit évasivement le régent.
Il extirpa de sa cotte un petit auvent codeur qu'il fixa sur sa lèvre inférieure. Un écran d'air opaque d'une largeur de 10 centimètres recouvrit le bas de son visage. Le seigneur de Sbarrao haussa les épaules et l'imita. Désormais, personne ne pouvait intercepter leur conversation.
List aperçut un salier huppé qui paradait sous les feux d'une bulle lumière. Le gracieux gallinacé déployait une à une ses plumes vives et brillantes.
Ce déplacement soudain de l'asthme s'accompagne d'un faisceau de conjonctions troublantes, reprit Strywurtling.
L'auvent codeur déformait le timbre de sa voix. Il avait l'impression de s'entendre parler à travers un mur d'eau.
Première coïncidence, l'incendie soudain du palais des assemblées d'Isigor. Il est extrêmement étonnant que le feu ait réussi à détruire un bâtiment de cette importance en 2 jours. Et ce, à un mois standard d'une asthma qui devait justement se dérouler à l'intérieur de ses murs.
Deuxième coïncidence, le procès en religion de Srimitsu, l'un des 5 grands smellas de la congrégation. Son bannissement perpétuel l'a éloigné des affaires de la Confédération, où son autorité et sa clairvoyance contrecarraient les manœuvres de certains.
« Banale histoire et triste histoire de mœurs !» objecta Asmussa. « Vous n'ignorez pas l'intransigeance de ces fanatiques de Creusiens. »
« Précisément, comment expliquez-vous que cette intransigeance ne s'applique pas à certains autres Syracusains très haut placés, dont les mœurs vont également à l'encontre du creusianisme ?»«
Leur ressort en est politique, » répondit Don Asmussa, qui devinait parfaitement à qui son interlocuteur faisait allusion. En condamnant publiquement un personnage d'une telle dimension, le moufti de l'église du Creus a saisi une excellente opportunité d'asseoir son autorité sur le peuple syracusain. Et vous le savez aussi bien que moi, les smellas sont exclus de la congrégation lorsqu'ils ont contrevenu aux lois ou coutumes de leur planète d'origine. Les textes sont formels à ce sujet.
Les textes ne sont que des mots rigides et vides de sens, conservés dans de vieux mémodisques. Sans l'esprit, qu'est-ce qu'un texte? Et j'ai la ferme conviction que Srimitsu n'a pas été victime d'un texte, mais de l'esprit. D'esprit, plus exactement.
Bordel de Dieu, régent Strywurtling, ce n'est tout de même pas la première fois dans l'histoire de la Confédération qu'une asthma est déplacée au dernier moment. Il existe des précédents. Et puis, tout à fait entre nous,
le régent perçut de la malice dans sa voix déformée par l'auvent.
Ne préférez-vous pas réchauffer vos vieux os sous ce merveilleux climat plutôt que d'aller les exposer au vent de glace d'Isigor? Sur Syracusa, la corvée d'asthme se transforme en plaisir.
Il s'interrompit et, d'un bref mouvement de menton, désigna List, accroupi sur l'herbe lilas à proximité du salier huppé.
J'ose espérer que vous ferez profiter ce jeune homme, votre neveu et futur seigneur de Marquina, je crois, de tous les agréments de Vénétia. Le feu couve sous la glace des Syracusaines, et ma foi, s'il apprivoise aussi bien les dames que les saliers.
Son rire tonitruant troua le brouillage du codeur. Le torrent sonore submergea les tympans de Strywurtling, mais celui-ci refusa de se laisser emporter par l'humeur joyeuse de son vis-à-vis, et poursuivit fixement son idée.
Troisième coïncidence, Menati Hang, frère cadet du seigneur Ranti Hang, est actuellement commandant intérimaire de l'Interlice. On l'a vu beaucoup voyager ces derniers temps, nouer des contacts soutenus avec les officiers supérieurs permanents, avec les mercenaires de Prithiv également. Qui n'a pas un jour utilisé les services de ces tueurs? Ils sont chers mais efficaces et discrets. Si Menati Hang fait appel aux mercenaires de Prithiv, c'est surtout pour éliminer les maris jaloux et baiser leurs femmes à loisir. Cet homme a un pénis à la place du cerveau. De plus, un nouveau commandant intérimaire sera nommé à la fin de l'ASPA. Je vous rejoins sur un point, régent Wurtling. Comme à vous, les Syracusains, leurs simagrées et leurs singes protecteurs de pensée, me courent à grande foulée sur le système nerveux. Mais croyez-moi, s'il prenait à ses maniérés l'absurde fantaisie de saper les fondements de la Confédération, il leur faudrait d'autres appuis que celui de l'Interlice et de Prithiv pour mener à bien leur projet. Tôt ou tard, il se retrouverait confronté à l'ordre Absurate, le dernier bastion du système mis en place par Naflin.
Pour moi, l'ordre est un mystère total. Les chevaliers Absurate n'ont jamais eu l'occasion d'intervenir depuis la création de la Confédération. Se montreraient-ils à la hauteur dans le cas où une coalition les menacerait ? Le visage bistre de Don Sasmusa s'éclaira d'un large sourire. Ses dents blanches crevèrent l'opacité de son auvent.
« Je vous affirme qu'ils seraient prêts. »
« D'où vient cette certitude, seigneur Asmusa ?»«
De quelqu'un qui m'est très cher, mon troisième fils, Philp. Cela fait 3 années standard qu'il a rejoint les rangs de l'ordre Absurate, au monastère de Selpdik, où il a récemment été élevé au grade de guerrier. L'enseignement est tenu secret, mais le peu qu'il m'en a dit suffit amplement à ma gouverne. Je sais que vous êtes homme de prudence, régent Wurtling, mais... Pour la deuxième fois, je vous conjure de profiter sans réserve de votre séjour sur cette magnifique planète.
Je vous remercie de m'avoir accordé ces quelques minutes de votre temps, seigneur Asmusa. Nous verrons demain à la cérémonie d'ouverture de l'Asma. Fasse les cieux que vous ayez raison et que mes pressentiments ne soient qu'errements de vieillard racorni. Le régent retira son messacodeur. Le glissa dans la poche intérieure de sa cotte brune et s'inclina à 3 reprises.
« Régent Wurtling de Markina, vous êtes plus jeune et alerte que jamais. Que la nuit vous soit agréable, mais n'abusez pas trop des femmes. Ces créatures du diable sont de redoutables dévoreuses d'énergie. »
Les escortes et les escouades des gardes se reformèrent autour des 2 hommes. List abandonna à regret le salier huppé qui le suivit un moment avant de s'en retourner. De son allure dansante sous une belle lumière. Les 2 groupes s'ébranlèrent et se remirent en marche dans des directions opposées.
« Le seigneur Amusa semble de bonne humeur, »
murmura Jaspar Net, le Daït général.
« Sbarao et les 11 anneaux ne sont pourtant pas faciles à gouverner.
Je présume qu'il n'en apprécie que davantage le fait d'être encore en vie, »
répondit distraitement le régent. Cette discussion improvisée ne lui avait rien appris de nouveau. Elle avait eu pour seule conséquence d'aviver son désir de rencontrer Sri Alexou. La perspicacité du Syracusain l'aiderait peut-être à mettre un peu d'ordre dans ses pensées embrouillées.
Jaspar Net entra dans le conversoire, une petite pièce délimitée par des tentures eau verte où s'ébattaient de minuscules poissons papillons.
Jasp, je vous confie liste pour la soirée.
Dit Stry Wurtling assis dans un fauteuil air aux contours à peine esquissés. Le Daït général avait l'impression que les jambes et le dos du régent reposaient sur un concentré de vide.
« Notre sire régent ne vient pas avec nous ?»«
Non, j'ai besoin de rester seul pour réfléchir. Mais je tiens à ce que List passe une très bonne soirée. Vous vous chargerez de l'emmener là où ses envies le porteront. » Théâtre d'Hermate, course de pierres volantes, chants extatiques, etc.
« Le seigneur List n'apprécie guère ma compagnie, » objecta le petit homme.
« Raison de plus pour ne rien lui refuser. Jaspe, nous sommes loin de Markina et, n'en déplaise à ma belle-sœur, il est grand temps que List se familiarise avec certains aspects de la vie. On m'a dit que les geishas syracusaines étaient les meilleures initiatrices pour... Enfin, vous me comprenez. Soyez discret surtout. Ah, n'oubliez pas de lui faire découvrir la gastronomie locale. Elle est absolument divine.
Le seigneur List regrettera votre absence, sœur régent,
protesta mollement Jaspar Net, intérieurement ravi qu'un tel honneur lui fût confié.
Stry Wurtling éclata de rire. Il en sera enchanté. Quand j'étais jeune, je détestais sortir avec des vieux barbons. Vous serez accompagné d'une solide escorte, mais je vous demande de porter toute votre attention sur sa sécurité. Sur quelque planète qu'elle se déroule, une asma génère un afflux massif d'escrocs mondains, joueurs professionnels, mages, illusionnistes, trafiquants. Et je ne tiens pas à ce qu'ils soient mêlés de près ou de loin à une embrouille courtisane. Ici, tout est hors de prix, mais ne vous souciez pas de l'argent. Dépensez autant qu'il le faudra. « Dites à List que je suis fatigué, souffrant, et partez sans tarder. Merci, Jaspe. »«
Il en sera fait selon vos désirs, sœur régent. »
Les yeux noirs du Daït général luisaient comme des braises. Il joignit les mains à hauteur des yeux, s'inclina et se retira. Des pensées teintées de morosité se levèrent dans l'esprit de Strywhirtling. Les circonstances le contraignaient à s'en remettre entièrement à son conseiller. Tout au long des 35 années standards qu'il avait passées au service de la dynastie de Wartmort, Jasper Nett n'avait jamais trahi la confiance de ses maîtres. Mais dans la période de troubles qu'il traversait, le régent en était arrivé à suspecter le Daït général lui-même, fidèle entre les fidèles. Quelques instants plus tard, Strywhirtling se leva et se rendit dans sa chambre, une immense pièce rectangulaire au ton lapis-lazuli. Il activa son holophone personnel posé sur une étagère centrale auto-suspendue. La tête de Lysius, le serviteur du palais responsable de la suite, apparut sur l'écran alvéolaire. « Monseigneur, pouvez-vous me procurer discrètement une... cape ou quelque chose d'approchant ?» Un sourire de connivence se dessina sur le visage holo-réduit du serviteur. « Monseigneur désire peut-être visiter en anonyme quelque endroit particulier de Vénitia ?»«
C'est... un peu ça, » répondit Strywhirtling.
« Que Monseigneur désactive son holophone, les murs du palais ont des oreilles indiscrètes. » Le serveur, vêtu d'un col en cor gris et d'une veste rouge, s'introduisit dans la chambre 2 minutes plus tard. Une étoffe noire était passée autour de son bras.
« Le palais dispose-t-il d'issues discrètes ?» demanda Strywhirtling.
« Il existe peut-être quelques passages retirés, » répondit évasivement Lysius.
« Mais vous, connaissez-vous un moyen de quitter cette suite sans éveiller l'attention de la garde ?» Il y avait de fortes chances pour que le serviteur fût un agent de la sécurité syracusaine. Strywhirtling prenait un risque considérable à solliciter son aide, mais il n'avait pas le choix.
« Tout est possible lorsqu'on le désire vraiment ?» murmura le serviteur.
Le régent sortit une plaquette argentée de sa cote, l'équivalent de 10 000 unités standards, et la tendit à Lysius.
« Par chance, monseigneur, j'exerce mes fonctions dans ce palais depuis 8 années locales, » poursuivit le serviteur dont les yeux bleus brillèrent subitement. « De ce fait, je connais ce bâtiment comme mon col-en-corps de service. Chaque suite dispose d'une entrée secrète, servant également d'issue de secours en cas de danger. Cette entrée n'est gardée que par un seul homme, avec qui nous pouvons toujours trouver un arrangement. Que Monseigneur me suive, et qu'il passe la cape afin que personne ne puisse le reconnaître. Cette précaution est également valable pour moi, car je prends de très gros risques dans cette affaire.
Ceci n'est qu'un acompte. Le reste de la récompense sera à la hauteur du risque encouru, affirma Strywhirtling.
Lysius remit l'étoffe noire à son interlocuteur. Il s'empara de la plaquette, la glissa dans une poche de sa veste, s'inclina et se dirigea vers le conversoir. Le régent se revêtit de la cape, pourvue d'un ample capuchon, et lui emboîta le pas. Le serviteur saisit le bord d'une tenture haut verte et l'écarta comme il l'aurait fait d'un vulgaire rideau d'étoffe. Effrayés, les poissons papillons se réfugièrent dans les micro-algues fluctuantes. Un sas circulaire et blindé se découpait sur le mur dénudé de marbre blanc. Lysius gratta l'acier trempé de ses ongles taillés en pointe, comme la plupart des Syracusains. Un grincement similaire, mais atténué, retentit de l'autre côté. Puis Strywhirtling perçut un crissement aigu, évoquant le frottement d'un verrou métallique sur ses coulisses. Le sas s'entr'ouvrit, et une tête recouverte d'un casque gris et d'un panache blanc s'immissa dans l'entrebâillement. Le garde et le serviteur se lancèrent dans une discussion animée. Il parlait d'un mélange de nafles interplanétaires et de vieux Syracusains, dont Strywhirtling ne saisit que quelques bribes au passage. Par la suite, dans la galerie souterraine, Lysius lui raconta qu'il avait dû promettre la moitié de la récompense au garde. Le régent n'en crut pas un mot, mais il préféra garder ses impressions pour lui. Pour l'avoir souvent utilisé, il savait que la corruption était la seule clé capable d'ouvrir toutes les portes en cet univers. Ils s'engagèrent dans un dédale de couloirs sombres, reliés les uns aux autres par des escaliers tournants ou des plateformes gravitationnelles. Le serviteur dut parlementer avec d'autres gardes rencontrés çà et là, et il prétendit qu'il ne lui resterait pas grand-chose au bout du compte. Ils émergèrent enfin des soubassements du palais et se retrouvèrent sur le trottoir d'une ruelle obscure et déserte. Strywhirtling rabattit la capuche de sa cape sur sa tête et remit une deuxième plaquette argentée à Lysius. « Si on me demande,
dites que je ne souhaite être dérangé sous aucun prétexte. Il y aura le triple si vous tenez votre langue, et des représailles si vous la déliez.
Que monseigneur soit tranquille, j'ai déjà tout oublié.
Le serviteur empocha la deuxième plaquette et disparut. Strywartling aperçut dans le lointain les hauts murs blancs du palais qui se découpaient au-dessus de la masse sombre de la colline. Il remonta l'étroite ruelle qui se jetait dans une grande avenue bordée de spumiers enluminés. Des adolescents, juchés sur des chaises volantes, disputaient une course-poursuite au-dessus des larges trottoirs. Strywartling se dirigea vers un taxi-boule, une navette aérienne sphérique et transparente, immobilisée sur son aire de stationnement. Il s'installa sur la banquette arrière.
« Où dois-je transporter, monsieur ?»
demanda le chauffeur qui, en dépit de ses efforts pour le paraître, n'était visiblement pas un Syracusain d'origine. « Près du vieux muséum, dans le quartier nord près du fleuve Tiber Augustus. »«
Je sais où se trouve le muséum. Je connais Vénitia, monsieur. »
« Qu'attendez-vous pour décoller? Je suis pressé. »«
C'est vous le client, monsieur, » grinça le chauffeur.
Le taxi-boule s'éleva silencieusement au-dessus de la ville, puis il bifurqua vers un corridor aérien de vitesse, délimité par des jalons suspendus de sécurité, et accéléra. Il s'éloigna rapidement du cœur animé de la cité seigneuriale et s'enfonça dans la nuit. Il survola une gigantesque fosse noire où s'agitaient d'innombrables taches de lumière pas plus grosses que des lucioles. Le chauffeur, en mal de conversation, surprit le regard intrigué de son passager.
« Ce truc, personne ne sait ce que c'est. Sans doute un nouveau palais, comme s'il n'y en avait pas assez à Venetia. Les lumières qui bougent, ce sont des ouvriers en combilumine. Ça leur permet de travailler en pleine nuit. Ils viennent des satellites, de Julius principalement. Ils croient tous qu'ils vont faire fortune ici. »«
Comme vous, peut-être, » lança le régent. Le taxi-boule entama sa vertigineuse descente au-dessus du fleuve Tiber Augustus. Quelques galiotes faiblement éclairées glissaient sur la surface lisse et fuligineuse du placide cours d'eau. Sur la rive opposée se dressait l'imposante bâtisse grise du muséum, un monument massif de la période pré-naflinienne.
« Dois-je vraiment vous déposer de l'autre côté du Tiber, monsieur ?» demanda le chauffeur. « Il n'y a rien à voir par ici. Je connais des endroits plus... »«
Tout ce que je vous demande, c'est de me déposer. » coupa Strywartling d'un ton cassant.
« Bien, monsieur, c'est votre client. »
Le taxi-boule survola le fleuve à basse altitude et se posa lentement sur un quai, à proximité d'entrepôts déserts. Strywartling régla la course et descendit. Le silence nocturne était à peine égratigné par les glissements des galiotes à coussins d'air et la rumeur diffuse provenant du centre de la ville. Le taxi-boule reprit son envol et se dirigea vers le lointain océan de lumière. Le régent hésita sur la direction à suivre. Il n'avait pas prévenu Sri Alexou de sa visite, car le canal holographique du Syracusain avait probablement été placé sous écoute. Or, Strywartling n'avait que de vagues souvenirs du quartier où se trouvait la demeure de son vieil ami. Ses points de repère étaient le Tiber Augustus et le dôme du muséum, qu'on pouvait apercevoir depuis la terrasse supérieure du jardin du Syracusain. Strywartling opta pour la solution de remonter le quai en direction du monument historique. Les deux derniers satellites de la seconde nuit paraient l'horizon de traînées mauves et vertes. Le régent déboucha sur une place bordée d'arbres nains et de hautes façades grises. L'endroit lui parut vaguement familier. Il coupa par le petit square conversoire dressé au centre de l'esplanade. Alors qu'il longeait un banc de verdure, son pied heurta quelque chose. Des cris stridents déchirèrent la nuit. Le sang de Strywartling se glaça. Sa main se glissa sous sa cotte et agrippa la crosse de son vieux pistolas. Plumes hérissées, un salier huppé surgit du banc de verdure et courut de toutes ses petites pattes se réfugier dans un massif d'épineux.
« Grand Dieu, voilà que j'ai peur des boules de plumes maintenant !» maugréa le régent à mi-voix.
Il reprit son souffle et attendit que les battements de son cœur emballé se fussent calmés. La nuit était paisible, mais semblait abriter une foule de dangers invisibles. Il reconnut enfin la maison de Sri Alexou, une construction de deux étages aux formes harmonieuses, aux murs ivoires et aux toits pyramidales. Pas une lumière n'éclairait la façade dont les baies vitrées ogivales étaient des orbites vides et noires. Le régent s'approcha du portail donnant sur le jardin du rez-de-chaussée. Des marches air blanches, striées de veines brunes et percées par la brise, reliaient les massifs floraux thématiques. Au centre du bassin hexagonal, la fontaine musicale en forme de trident ne murmurait pas son chant habituel de bienvenue. Une étrange atmosphère régnait autour de la maison. Une atmosphère lugubre, glaciale, que ne parvenait pas à réchauffer le vent Coriolis. C'est comme si toute source de chaleur avait déserté les lieux. Strywurtling frissonna et hésita dans la conduite à suivre. Sri Alexou semblait s'être absenté. Or, le Syracusain, veuf et père d'une fille, était un homme casanier qui ne s'éloignait pratiquement jamais de Vénétia. La curiosité l'emporta sur la crainte de se faire surprendre. Strywurtling jeta un rapide coup d'œil sur la rue et sur la place, puis poussa le portail, qui n'était pas fermé à clé, et pénétra dans le jardin. Une pure folie, car il y avait de fortes probabilités que quelque chose ou quelqu'un, voisin, passant, agent mobile de la sécurité locale, détecteur ultrasonique, mouchard holographique, donne l'alarme. Or, le régent de Marquina aurait été bien en peine de justifier son escapade solitaire dans cette maison désertée. Avec sa cape noire, il ressemblait davantage à un vulgaire cambrioleur qu'à une personnalité en vue de la Confédération de Naflin. Il avait l'impression que chacun de ses pas sur les gemmes roses de l'allée crucifiait le silence. Sa dernière visite remontait maintenant à 7 années standard, à l'occasion d'une réception privée que Sri Alexou avait donnée en l'honneur du 15e anniversaire de sa fille, Afikit. Strywurtling se souvient combien il avait admiré ce jardin et ses mosaïques de couleurs lapis-lazuli, amarantes ou diaprées de fleurs éphémères. Il se souvint également de l'adolescente, dont les somptueux yeux bleus, verts et or, la grâce et la beauté étaient sans conteste le joyau de la demeure du Syracusain. La porte de bois parfumé du rez-de-chaussée, située sous les colonnades de la façade, refusa de s'ouvrir. Le régent se rappela l'existence d'une issue dérobée, dissimulée par un buisson d'épineux à l'arrière de la construction. Il contourna la façade et le mur latéral. Il crut percevoir des bruits de pas et s'immobilisa tout sens aux aguets. Il préféra se persuader qu'ils n'étaient pas les fruits de son imagination. Il se fraya un passage dans le fourré, dont les épines lui griffèrent les mains et les avant-bras. La porte basse, arrondie, grinça sur ses gonds mais s'ouvrit sans résistance. Il s'engouffra dans un étroit couloir où se déversait à flots une encre épaisse et noire. Il visita brièvement les 2 premiers étages, le vaste salon principal jonché de sculptures air disposées en étoiles, le bureau ordonné où flottait une odeur d'encens et de bois parfumé, les chambres dont les balcons donnaient sur le Tiber Augustus, la cuisine imprégnée de senteurs d'épices, les salles de réception, le cabinet de consultation privé. Les lueurs diffuses des satellites filtrées par les baies ogivales le guidaient dans ses investigations. Il ressentit de nouveau un sentiment d'oppression. L'ambiance macabre qui régnait à l'intérieur des murs suscita en lui un malaise proche de la nausée. Il entra dans le minuscule salon du Déromat. Il examina l'appareil oblong et blanc, posé sur un socle air et surmonté d'une carte holographique lumineuse. Un petit bijou de technologie, dont Sri Alexou, étant donné son aversion pour les voyages, ne se servait pas souvent. Strywurtling ouvrit machinalement le hublot supérieur. Des signes phosphorescents brillèrent sur l'écran bulle placé au-dessus de la couchette de transfert de cellules. Le dernier utilisateur de la machine n'avait pas pris le temps d'effacer du disque mémoire les coordonnées de son voyage. Vérificateur fit accord. Date 13 de Frasius Syracusain. Destination 2 saisons. Heure de départ 17h locale. Heure d'arrivée locale 7h42. Nombre de passagers 1. Le régent convertit mentalement le 13 de Frasius Syracusain en calendrier standard. Le voyage datait d'aujourd'hui même. La carte holographique représentait une étroite portion d'univers comprise entre les mondes du centre et les planètes des marches. Il composa le nom de la planète de destination sur la console répertoire reposant sur le socle.
Un point rouge se mit à clignoter au milieu des centaines de systèmes d'étoiles actives macro-holographiés. Deux saisons se situaient à 40 années-lumière de Syracusa et à 7 années-lumière de Point Rouge, la planète d'Ebani, des Raskatas. 40 années-lumière, cela représentait également le rayon d'action maximal du Déremat, ce qui, pour un appareil privé, était déjà tout à fait remarquable. Un nom vint subitement à l'esprit de Strywortling, Sri Mitsu, le smella de la congrégation que l'église de Kreutz avait condamné à l'exil perpétuel sur Point Rouge. Selon toute probabilité, Sri Alexou avait entrepris ce long voyage pour aller rendre visite à Sri Mitsu, le deuxième des trois maîtres de la science indique. De saison se trouvait en bout de rayon d'action du Déremat et avait seulement servi de relais pour la continuation du voyage. Le fait que le casanier syracusain fût résolu à quitter précipitamment sa ville, à abandonner sa fille et ses fleurs, prouvait que la situation était grave et confirmait le pressentiment du régent de Markina. Mais ce dernier manquait d'éléments concrets et ses idées s'entrechoquaient au point qu'il fut submergé par un début de panique. Des bruits soudains de pas et de voix retentirent. Strywortling eut tout juste le temps de regagner le balcon du premier étage et de s'allonger sur le parquet de bois précieux près de la balustrade ajourée. De là, il embrassait du regard le grand salon du rez-de-chaussée, dont les lampes hauts murales s'allumèrent une à une. Deux individus firent leur apparition dans la pièce. Des mercenaires de Prytive, identifiables à leurs masques blancs et aux triangles argentés et brillants enchâssés dans les plastrons de leurs uniformes gris. Lorsqu'ils eurent inspecté le salon, d'autres personnages surgirent de l'ombre, aussi silencieux que des spectres. Strywortling suspendit sa respiration. L'un des nouveaux arrivants n'était autre que Pamings, le connétable de Syracusa. Il portait sa traditionnelle akaba bleue. Son capuchon rabattu sur ses épaules laissait paraître un crâne nu et difforme, une face rugueuse et verdâtre, des yeux globuleux et uniformément jaunes. Deux skaïtes vêtus des akabas vertilleuls des lecteurs l'accompagnaient, ainsi qu'un cardinal creusien, surplis violet sur col encore pourpre, barrette carrée des dignitaires de l'église, suivi pas à pas par les deux akabas blancs et rouges de ses protecteurs. Trois mercenaires de Prytive, dont l'un arborait une combinaison et un masque noir, complétaient le groupe.
Cet homme en savait beaucoup plus que nous ne le supposions, déclara le connétable d'une voix métallique impersonnelle. Et la fille?
Nous sommes arrivés trop tard, Excellence, répondit le mercenaire au masque noir. Elle s'est téléportée avant qu'eux.
Avez-vous les coordonnées de son transfert?
Et sa rematérialisation a été programmée sur la planète Deux Saisons, une planète du système des Trois Feux.
Elle cherche probablement à gagner Point Rouge et à entrer en contact avec le Raskata Sri Mitsu, un maître de la science indique comme son hérétique de père.
Deux de nos meilleurs hommes et un skaït lecteur se sont lancés à sa poursuite depuis notre siège de Prytive. De plus, nous avons préparé une souricière à son intention sur Point Rouge.
Attention, Sri Alexou lui a sans doute enseigné des rudiments de science indique. Le lecteur ne pourra peut-être pas la localiser.
Nous n'avons pas besoin de votre lecteur. Cette fois-ci, nous ne la manquerons pas, Excellence.
J'ose l'espérer. Réduisez le corps en cendres.
Deux mercenaires se dirigèrent vers ce qui semblait être un amas hétéroclite de couvertures et de coussins. Ce fatras incongru dans cette maison ordonnée avait complètement échappé à l'attention de Strywortling lors de sa brève inspection des lieux. Les mercenaires en dégagèrent un corps inerte que le régent reconnut sans l'ombre d'une hésitation. Son vieil ami Sri Alexou semblait plongé dans un profond et paisible sommeil. Le cardinal creutzien, homme à la face congestionnée, était agité de tics nerveux et, lancé par-dessus son épaule d'incessants coups d'œil en direction de ses protecteurs de pensée, statufié à deux pas derrière lui. Les mercenaires allèrent le cadavre jusque dans le vestibule d'entrée. L'un d'eux extirpa un engin en forme de poire d'une trousse qu'il portait en bandoulière et pointa le désintégrateur sur le visage cireux de Sri Alexou. La bouche ronde du canon vomit un rayon vert d'une luminosité éblouissante.
Les traits, les membres et les vêtements du Syracusain se recroquevillèrent à la manière d'un papier léché par les flammes. Son corps ne fut bientôt plus qu'une masse informe et grise. Il se réduisit encore et encore, jusqu'à ce que ne subsiste de lui qu'une mince pellicule de poussière noire. Une âpre odeur de viande grillée se répandit dans l'atmosphère. Pendant ce temps, les autres mercenaires fouillaient chaque recoin du rez-de-chaussée. Des livres antiques d'une valeur inestimable, des films 4D d'avant Naflin et des documentaires holographiques furent rassemblés sur une table basse.
« Devons-nous également vérifier les pièces du premier étage, Excellence ?» demanda le mercenaire au masque noir. Les griffes de l'angoisse se plantèrent dans le bas-ventre de Strywortling, qu'un linceul de sueur glacée enveloppa.
« Cela ne sera pas nécessaire, » répondit Pamings après un temps de silence qui parut interminable au régent. « Il n'y a là-haut que le salon du déromate et des chambres à coucher, et les Syracusains n'ont pas pour habitude de mêler travail et repos, n'est-ce pas, votre éminence ?»«
Si fait !» bredouilla le cardinal, visiblement incommodé par la présence des mercenaires et la puanteur.
« Bien !» Faites donc subir à ces résidus de superstition un sort semblable à celui de leur propriétaire. Il faut détruire à jamais ces germes d'abomination. N'est-ce pas, votre éminence ?
Le cardinal était livide. La manière qu'avait Pamings de le prendre sans cesse à témoin, comme si le connétable éprouvait un plaisir pervers à l'impliquer dans la responsabilité de cet ignoble meurtre, l'agaçait au plus haut point.
Mais il déploya toutes les ressources de son contrôle mental et parvint à surmonter son aversion pour ses compagnons de devoir.
La tâche secrète que lui avait confiée le pasteur infaillible, le moufti Barofil 24, comportait des aspects déplaisants, voire répugnants, mais il devait la remplir sans faille pour la grandeur du Kreutz, et surtout pour son propre plan de carrière au sein du clergé.
Bien sûr, murmura-t-il. Que le Kreutz nous ait tous en sainte garde.
Un lecteur contacta mentalement le connétable.
Excellence, je détecte une présence au premier étage.
Imbécile, croyez-vous que j'ai attendu votre communication pour m'en apercevoir? À votre avis, pourquoi n'ai-je pas permis aux mercenaires de fouiller le premier étage? Il s'agit de Strywortling, régent de Markina. Je m'attendais un peu à le trouver ici. Je savais qu'il était sorti en secret du palais Fertirang. Je savais également qu'il désirait rencontrer Sri Alexou. Quelqu'un de son entourage proche m'avait fait part de ses soupçons concernant notre projet.
« Mais, Excellence, pourquoi ne vous êtes-vous pas occupé de lui avant l'ouverture de l'asthme ?»«
Une autre pensée de ce genre et je vous renvoie dans les cuves matricielles d'Hyponéros. La mort brutale d'un dirigeant déclenche une enquête de la congrégation des Smella. Le risque était trop important. »«
Que devons-nous faire ?»«
Rien, pour l'instant. » Fouillez à votre tour dans son esprit et dites-moi ce qu'il sait réellement du projet. Pendant ce temps, je poursuivrai la conversation avec le cardinal.
Bien, Excellence.
Le cardinal abordait avec prudence le problème que lui avait soumis le moufti.
Excellence, vous n'êtes pas sans savoir, et ceci pour faire suite au procès de Srimitsu dont vous parliez tout à l'heure. Vous n'êtes pas sans savoir, disais-je, que certaines personnalités de l'État syracusain et non des moindres, se livre à des débauches qui pourraient, disons, devenir de notoriété publique et avoir de fâcheuses répercussions sur le peuple syracusain et, dans l'optique de vos projets sur les autres peuples de la Confédération.
Vous voulez sans doute parler de ces pratiques sexuelles contre nature,
l'interrompit le connétable qui savait pertinemment où son interlocuteur voulait en venir.
Précisément, Excellence, précisément. Si votre projet aboutit, et il aboutira car telle est la volonté du Kreutz, il ne serait pas convenable d'offrir à l'univers une image ternie de la civilisation syracusaine.
Excellence, il ne connaît rien d'autre du projet que ce que nous lui en apprenons.
Poursuivez votre investigation, essayez de capter ses intentions ultérieures. Pendant ce temps, je vais réfléchir sur la meilleure manière de résoudre le problème.
Il tarde à sa sainteté, Barofil 24, d'expédier dans l'univers ces cohortes de missionnaires qui bouillent eux-mêmes d'impatience de porter la parole vraie et le feu rédempteur à leurs frères vivants dans l'ignorance. Cependant, ils souhaitent s'entourer de certaines garanties.
« Je comprends les préoccupations de sa sainteté, » répondit Pamings, sortant d'un échange télépathique, il contrôlait mal le volume sonore de sa voix, qui fit tressaillir le prélat. « Et pas plus que vous, nous ne tenons à donner au reste de l'univers une image faussée de Siracusa. Menati Hang, le frère cadet de notre actuel seigneur, nous paraît indiqué pour être le digne successeur de son père, le grand Argeti Hang. Menati est un Croisien fervent et on ne lui connaît pas de vice particulier. De plus, j'ai pu constater qu'il sait faire preuve d'une habileté politique remarquable en certaines circonstances. Voyez, à titre d'exemple, comment il a su gagner les officiers de l'interlice à notre cause. Si sa sainteté le Mufti veut nous apporter son soutien, nous destituerons le seigneur Ranti et hâterons l'avènement du seigneur Menati.
Sa sainteté ne désire pas qu'il en soit autrement, Excellence.
Soulagé, le cardinal s'inclina avec une onctuosité tout ecclésiastique.
Voici mes instructions. Nous allons sortir comme si nous n'avions pas remarqué la présence du régent de Markina. Il ne faut pas éveiller prématurément sa méfiance. Il dispose peut-être d'un signal ondulatoire d'alerte. Il n'appellera pas les autres seigneurs d'ici car il sait que le transmetteur de Sri Alexou est sur écoute. Il faudra donc qu'il sorte. Dès qu'il sera dans le jardin, que les mercenaires de Prithiv brouillent ses connexions cérébrales à l'aide d'un rayon spécial, qu'il le transporte ensuite discrètement dans une rue de Salaoun, le quartier des prostituées, qu'il l'abandonne de manière à ce qu'on puisse le découvrir à l'aube de Ruby devant un immeuble des plaisirs extrêmes. On croira qu'il s'est éclipsé en catimini du palais des réceptions pour aller se divertir avec une geisha et qu'il en est devenu fou.
Mais Excellence, cela risque d'entraîner une enquête et la suspension de l'ASMA.
Non. Le clan régnant de Markina est représenté par l'héritier légitime du trône, List Wertling. Ce vieil imbécile a eu la prévenance d'emmener avec lui. Selon les textes, étant donné sa présence, étant également donné la présence de Jasper Net, le Daït général, List Wertling se substituera à son oncle. De toute manière, le déshonneur occasionné par la découverte de l'un des siens dans le quartier des plaisirs ne laissera pas d'autre choix à la famille Wertling. L'ASMA sera ouverte. Vous donnerez ses ordres aux mercenaires une fois que vous serez dehors et vous veillerez au bon déroulement de l'opération. D'autres tâches urgentes m'attendent. Mon absence ne peut se prolonger. En cas d'échec, vous serez personnellement tenu pour responsable.
Bien, Excellence.
Autre chose, menez une investigation mentale auprès de tous les serviteurs et gardes du palais Ferkti Hang. « Amenez-moi les individus qui ont aidé le régent de Markina à déjouer la surveillance. Ils regretteront leur prévarication. Allez, et rappelez-vous, pas d'échec. »
Interloqué par le silence prolongé du connétable, le cardinal toussa à deux reprises et dit
« Est-ce vraiment nécessaire, Excellence, que nous restions ici? Je dois rendre compte de notre entretien au palais épiscopal. »
« Cet entretien ne m'est pas plus agréable qu'à vous, votre éminence. » J'étais simplement en train de procéder à quelques vérifications. Je vous prie de bien vouloir m'excuser.
Puis s'adressant aux mercenaires,
remettez tout en ordre.
Le salon reprit peu à peu son aspect d'intérieur luxueux et bien rangé. À la fois anéanti par ce qu'il venait de découvrir et soulagé de n'avoir pas été repéré, Stry Wertling ne put curieusement s'empêcher d'admirer l'adresse et la vitesse d'exécution des mercenaires de Prithiv. Aucun mouvement superflu ne parasitait leurs gestes aussi rapides et précis que des mécanismes de la génération des superfluides. Cette formidable alliance entre les Hang de Siracusa, les Skaïtes d'Hyponeros, l'église du Kreutz et l'interlice confédérale constituait une terrible menace pour la confédération de Naflin. Ce que le régent de Markina avait confusément deviné se trouvait bel et bien confirmé par ce qu'il avait vu et entendu dans la maison de Sri Alexou. Jusqu'au procès truqué de Sri Mitsu le Smella. Stry Wertling ne disposait à présent que d'un laps de temps très limité pour prévenir les autres dirigeants des mondes du centre et le Mahdi Sekoram, le grand maître de l'ordre Absurat. Il eut une pensée émue pour Sri Alexou, première victime de la conjuration. Afikit, sa fille, leur avait échappé, mais pour combien de temps encore? Les lampes hautes s'éteignirent une à une. Le salon fut de nouveau plongé dans une obscurité fuligineuse. Le petit groupe sortit, le bruit de leurs pas crissant sur les allées de gemmes du jardin décrut lentement et fit place à un silence épais, presque palpable. Les halos ténus des 5 satellites de la seconde nuit formaient une lointaine cicatrice de lumière sur la voûte céleste. Une vieille comptine marquitaine traversa les siècles et vint mourir à la surface de l'esprit du régent. Les plus belles caressent les yeux. Les plus belles écorchent le cœur. Il se releva, dévala l'escalier et sortit par la porte de secours. Une fois dehors, il scruta les ténèbres, mais ne décela aucun mouvement ou bruit suspect. D'un pas nerveux, hâtif, il traversa le jardin et se dirigea vers les lointaines lumières de Vénitia, sans se douter un seul instant qu'il était suivi.